Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Nous sommes jeudi 11 décembre 2014, il est 18h, le journal du studio Tamani, c'est une présentation de Sira Bachili. Au sommaire de cette édition, espace d'interpellation démocratique, hier gouvernants et gouvernés étaient face à face pour débattre des préoccupations du peuple. Le foncier et la justice ont dominé les interpellations dont la plupart provenaient des régions. Pour bon nombre d'observateurs, cet exercice démocratique est un acquis appelé à être pérennisé. C'est une occasion qui permet d'interpeller directement et publiquement les administrateurs sur la gestion publique. Un dirigeant du groupe djihadiste Al-Mourabitoun et une dizaine de membres armés de son groupe terroriste ont été tués par des soldats de l'opération Barkhane dans la région de Gao. Ahmed El Tilemsi était l'un des membres de l'ex-Moujiao. Lutte contre Ebola, l'État fait recours aux leaders religieux. Une centaine de représentants des différentes associations religieuses s'informent sur les modes de transmission et de protection contre la maladie au CICB. Les autorités appellent les imams à plus de vigilance lors des toilettes funéraires. Bonsoir et bienvenue à tous. La 19e édition de l'espace d'interpellation démocratique s'est tenue hier au Centre international des conférences de Bamako. Cette année, plus de la moitié des interpellations provient des régions. Une place de choix a été réservée aux fonciers et à la justice dans les débats. Seul bémol, la participation des femmes reste très faible. Sekou Gadjigo.
Pour cette 19e édition, près de 300 dossiers d'interpellation ont été reçus, dont plus de la moitié en provenance de l'intérieur du pays. Un chiffre qui dépasse de loin celui de l'édition précédente. 5% des interpellations sont faites par les femmes. Pour la journée d'hier, 23 dossiers sélectionnés par la commission préparatoire ont pu être lus et ont obtenu des réponses. 130 classés pour suite à donner et 131 autres rejetés. L'essentiel des interpellations cette année a porté sur des litiges fonciers et domaniaux, la non-exécution des décisions de justice, les régularisations des situations administratives et le non-respect des engagements contractuels de l'État. Selon le médiateur, ces nouvelles interpellations confirme que l'état du droit fonctionne encore difficilement dans notre pays. Espace d'expression et d'interpellation des gouvernants, l'EID a pour objectif la promotion de l'état du droit, de la bonne gouvernance et le renforcement de la démocratie. Initié en 1994, l'espace d'interpellation démocratique en est à sa 20e année. Pour célébrer cet anniversaire, les organisateurs ont conçu un film documentaire retraçant les grands moments du dit espace.
Pour le juriste-chercheur Babada Kono, l'idée est un acquis démocratique qui doit être préservé car il reste une véritable tribune pour les administrés d'interpeller les administrateurs sur la gestion publique. Selon lui, il n'est pas surprenant de voir la question du foncier revenir dans toutes les interventions. Il a été joint par Sekou Gadjigo.
D'un point de vue de vitrine, oui, on peut dire que l'espace d'interpellation démocratique offre quand même une tribune aux citoyens, aux administrés, d'interpeller les administrateurs publics sur les questions pendant les traitements desquels ils ont été lésés. Donc c'est une véritable tribune aujourd'hui d'expression libre sur les violations des droits administrés par les administrateurs. On peut dire que cet espace est un acquis de la révolution de 1991, un acquis qu'on doit préserver à tout point de vue, voire même une consécration constitutionnelle de cet acquis pour qu'il ne soit pas fragilisé. On n'est pas surpris de voir toujours revenir cette question du foncier dans les discussions. Dans le foncier aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes et énormément de personnes ont été lésées dans leurs droits dans le foncier, donc qui fait que le foncier devient un sujet sensible aujourd'hui et une question de sécurité nationale de premier ordre.
Vous pouvez donc réagir à ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani.
Tamani.
Un dirigeant du groupe djihadiste Al-Mourabitoun a été tué par des soldats de l'opération Barkhane dans la région de Gao. L'information a été donnée par l'armée française. Ahmed El Tilemsi était l'un des membres de l'ex-Moujiao, issu d'une scission d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2011. Il a été tué avec une dizaine de membres armés de son groupe terroriste. Salima Tandao nous en parle.
Le colonel Gilles Jaron, porte-parole de l'armée française, a déclaré que cette nuit, suite à un renseignement, les forces Barkhane ont conduit une opération dans la région de Gao en coordination avec les autorités maliennes. Il a précisé que Ahmed El Tilemsi, nom de guerre d'Abdurrahman Ould El Amar, avait été tué et une dizaine d'hommes armés mis hors de combat. Selon lui, les forces françaises ont porté un coup très dur aux activités d'Al-Mourabitoun. Toujours selon le porte-parole, Ahmed El-Telemsi était une cible de haute valeur qui était traquée depuis plusieurs jours. Al-Mourabitoun est un groupe islamiste armé créé en août 2013 suite à la fusion du groupe des signataires par le sang de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, ex-chef d'ACMI et du Moujaou, dont le Malien Ahmed El-Telemsi était l'un des chefs. Selon une source gouvernementale française, El-Telemsi était le commanditaire de l'enlèvement de Gilberto Rodriguez Leal, un autre otage français dont la mort a été annoncée en avril, mais le corps jamais retrouvé.
Il reste encore 3 autres otages étrangers détenus toujours au Sahel. Il s'agit d'un Suédois, d'un Britannique et d'un Néerlandais enlevé il y a 3 ans à Tombouctou. Le Néerlandais Jack Rijk est apparu dans la même vidéo que Serge Lazarevitch il y a 3 semaines. Il y a 2 ans, les 3 hommes ont été filmés par des journalistes d'Al Jazeera près de Tombouctou. Mais depuis l'intervention française, les ravisseurs n'ont cessé de changer de cachette et ont pu séparer les 3 hommes. La Convention nationale pour une Afrique solidaire Sénat Faso-RE interpelle le gouvernement sur la transaction de Serge Lazarevitch et les djihadistes. Ses responsables politiques estiment que les autorités doivent éclairer le peuple sur le contenu de cet échange. Le parti demande à la France d'arrêter d'appuyer le MNLA maintenant qu'elle n'a aucun otage dans le Sahel. Zoumana Sako, président de Sénat Faso-RE, a été joint par Barke Sissé.
Nous voulons savoir qu'est-ce que le Mali peut gagner dans cette transaction. Nous disons qu'il y a un devoir de transparence et une obligation pour le gouvernement de rendre compte au peuple malien. Et le peuple malien veut savoir s'il y a des terroristes maliens qui ont été libérés en contrepartie dans la libération de M. Serge Lazarevitch. Et qui sont-ils et comment sont-ils? S'ils ont été libérés, quelle est la procédure qui a été suivie? Ça n'a pas violé le droit malien. L'une des raisons qui avait poussé l'armée française à bloquer l'avancée de l'armée malienne sécidale, c'est qu'il y avait des otages français détenus dans la zone et la France tenait à préserver la vie de ces soldats. Alors, maintenant qu'il n'y a plus d'otages français détenus au Sahel, nous voulons savoir si le gouvernement malien a obtenu en contrepartie de la France qu'elle cesse d'appuyer directement et indirectement les séparatistes de Ménéla. Donc, nous disons que franchement, en toute chose, il y a un calcul à faire, une analyse de coût-bénéfice. Qu'est-ce que le Mali a gagné dans tout cela?
La section syndicale des surveillants de prison du Mali menace d'aller en grève. Elle manifeste son mécontentement face à la libération des présumés djihadistes. Parmi eux, Mohamed Ali Aguadoussen, l'assassin de leur confrère Kola Sofara. Le comité réclame justice pour les victimes et l'amélioration de leurs conditions de vie. Les leaders religieux s'impliquent dans la lutte contre Ebola. Une centaine de représentants des différentes associations religieuses se sont rencontrés ce matin au CICB. Ils vont être informés et sensibilisés sur le mode de transmission et protection contre la maladie. Les religieux, à leur tour, devront sensibiliser les fidèles religieux. Les autorités appellent les imams à plus de vigilance lors des toilettes funéraires. Tcherno Omar Ass Diallo, ministre des Affaires religieuses et du culte, est au micro de Omar Waigalo.
Je pense que le rôle des culte est transversal par le fait que d'abord ils diffusent l'information tous les vendredis pour les musulmans, tous les dimanches pour les chrétiens, sensibiliser, demander le changement de comportement. Mais au-delà de ça aussi, c'est eux qui nous rendent purs quand le Seigneur nous rappelle au jour de la vérité, la mort. Alors donc ils touchent le corps, les rites funéraires qui sont séculaires dans notre pays, quel que soit le culte. Aujourd'hui, avec la fièvre à virus Ebola, cela demande un certain nombre de changements d'attitude, de comportement. Ils sont les meilleurs véhicules pour faire passer ce message.
20 agents de santé suivent depuis ce matin une session de formation sur la lutte contre le virus Ebola à Bamako. Après cette séance d'apprentissage, les participants devront se rendre dans les localités de Kai et Kangaba pour appuyer le dispositif sanitaire sur place. Elle est organisée par l'ONG Plan Mali et financée par l'Allemagne. Les nouvelles de nos régions à présent, signature d'une convention hier par plusieurs associations de victimes de la crise à Tombouctou. Ces associations se sont regroupées au sein d'une plateforme. Elles comptent défendre les droits des victimes qui se disent abandonnées par l'État. Cependant, elles affirment que des partenaires étrangers ont apporté leur aide à certaines victimes. Une éducation de qualité dans un environnement protecteur et sans danger pour les enfants affectés par le conflit, c'est le but d'une rencontre qui s'est tenue ce matin à Koutchala. Cette session visait à promouvoir l'éducation parentale dans les cercles de Koutchala et Yorosso. Elle a été initiée par l'ONG Save the Children. Vie publique et citoyenneté, c'était le thème d'une journée d'échange à Mopti. L'objectif de cette rencontre était d'informer les participantes sur les droits de citoyenneté, renforcer aussi les capacités des femmes en vue d'une participation massive aux élections communales et régionales prochaines. Elle était organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme. Les autorités régionales de Ségou ont visité ce matin les structures de santé de la ville. Il était question de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif sanitaire mis en place pour prévenir le virus. Elle rentre donc dans le cadre du plan d'action du comité de pilotage de la localité. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Vous aviez Sira Bachilo au micro, Sedumbo à la technique, mais restez sur Studio Tamani. Tout à l'heure, après le magazine, ça sera le Grand Dialogue avec Famoussa Silibé. Famoussa, bonsoir.
Bonsoir, Sira.
Alors, le Grand Dialogue fait irruption dans les prisons aujourd'hui.
Oui, la surpopulation carcérale, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui, Sira. Et pour l'occasion, nous avons comme invité, par téléphone d'abord, Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme, Issa Karunga Keita du Conseil national des droits de l'homme, Moussa Sarawi Maïga, directeur du centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Boulé, et El Béchir Singaré d'Amnesty International.
Ça fait beaucoup d'invités.
Beaucoup.
À tout à l'heure.
On espère les avoir tous.
D'accord. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.